Allora, nel mio ristorante L'Arcangelo propongo piatti della cucina romana, tra cui la carbonara, ovviamente la matriciana, io però la faccio nella variazione degli gnocchi di patate. Sto facendo adesso le tagliatelle con la lepre, quindi una cacciagione, e quindi un piatto anche rivisto con un po' di cioccolato, un po' rinascimentale. Poi ovviamente la trippa alla romana, sto rifacendo i rigatoni con la pagliata, che è un piatto della cucina del ghetto, quindi di ebraica, e il piccione, perché a Roma si faceva il piccione al cumino, poi i carciofi, poi le puntarelle.
Marcello, come here.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. À défaut de voyager physiquement, on voyage par les ondes en ce dimanche. On va déguster Passe les frontières de l'Italie, comme par magie, direzione Roma. Et oui, vous commencez à connaître notre passion dévorante pour la cucina italiana. Alors au rayon des monuments de Rome, il y a bien sûr le Colisée, la Basilique Saint-Pierre, la Fontaine de Trevi, la Chapelle Sixtine. Mais si je vous dis amatriciana, porchetta, saltimbocca, carbonara, ce sont quelques-uns des chefs-d'œuvre du patrimoine romain que l'on va explorer et déguster en compagnie de nos deux acolytes du jour, Alessandra Pierini. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Bon, on ne vous présente plus. Vous êtes notre spécialiste maison de la cuisine italienne à la tête de l'épicerie Rap dans le 9e arrondissement de Paris. Dans un instant, vous allez carrément prendre les fourneaux en main. Vous allez cuisiner en live une super recette romaine.
Oui, bien sûr, ça sera tout à l'heure une recette typique, ça sera les saltimbocca alla romana.
Les saltimbocca alla romana, très facile à faire en quelques minutes, on va voir.
Savoureuse.
Stéphane Solier, bonjour.
Et buongiorno.
Professeur agrégé de lettres classiques à Paris, passionné d'Italie, vous avez vécu, je crois, 9 ans à Rome. Vous
oui.
avez travaillé à l'ambassade de France.
Exact.
Vous avez été lecteur à l'université.
Oui.
Et pour le prouver, vous portez un t-shirt presque comestible.
Exactement.
Il est chouette ce t-shirt.
Cacio et Pepe, c'est emblématique. Alors voilà, une pâte romaine par excellence. On va peut-être en parler dans un instant. C'est ensemble, Alessandra et Stéphane, et avec 150 autres contributeurs que nous avons signé notre livre « On va déguster l'Italie » publié chez Marabout et les éditions de Radio France. Et c'est aussi ensemble que nous sommes partis à Rome à l'automne dernier entre deux confinements pour tâter le goût de la capitale du Latium. Nous avons apporté de notre séjour de nombreux et savoureux reportages que vous allez découvrir tout au long de cette émission. Et puis on va déguster des choses, on va cuisiner, enfin vous allez voir, ça va être une émission très gourmande. Dans les fauteuils des chroniqueurs aujourd'hui, Elvira Masson et notre avocat gourmet Éric Morin. Bonjour les copains.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Elvira.
Je vais vous parler d'un produit de pois de la cucina povera.
Ah, pois, peut-être une légumineuse.
On verra.
Ah, pas mal. On va voir ça dans un instant. Éric Morin.
Eh bien, de la cuisine romaine au droit romain, il n'y a qu'un pas et nous l'emprunterons jusqu'à Rome.
Intéressant. On va parler de Rome antique et de son héritage. De très nombreuses infos pratiques, des recettes romaines, des vidéos, un carnet très complet sur les adresses de Rome en prévision de vos prochains voyages dans l'après-pandémie. Le podcast de nos émissions et de toutes nos chroniques vous attendent sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Stéphane Solier, on entame notre virée romaine avec vous et on commence avec une surprise sucrée que l'on pourrait qualifier de cake d'amour.
C'est ça, c'est mon cake d'amour ouais. Et c'est en fait c'est une tradition qui est maintenant élevée. Vraiment, on a dédié un jour particulier, le premier samedi du mois de décembre à Rome pour fêter ce dessert.
Mm-hmm.
Et c'est une douceur qui s'appelle le maritozzo.
Maritozzo, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors maritozzo, c'est d'abord peut-être juste une brioche. Alors en fonction de la période, si c'est à carême, on aura des fruits confits, etc. Sinon, c'est une simple brioche farcie très abondamment de...
Ah, bah ça, vous nous l'avez apporté, on voit ça, ouais.
Voilà, de crème fouettée.
Waouh.
Ou de crème chantilly, pour ceux qui veulent encore plus de sucre. Alors, marito, c'est le mari. Maritozzo, petit mari, c'est une manière un peu burlesque de désigner le futur mari de la spose. En fait, c'est une spécialité qui s'offrait généralement au mois de mars, février-mars, au moment où les mariages commençaient à s'organiser, où le fiancé offrait à sa fiancée cette petite pagnotta, donc ce petit pain, et en fait on y cachait dedans des petits, soit un anneau, soit un petit bijou.
Alors qu'est-ce qu'on en pense autour de ce plateau? C'est quand même extrêmement abondant et généreux.
Oui, c'est abondant et généreux. Mais
c'est pas pour vous déplaire, j'ai l'impression.
Ça m'a pas découragée. La petite brioche est ultra moelleuse, mais surtout c'est vraiment un nuage de crème fouettée très très aérien. Quoi. Donc oui, c'est légèrement sucré, mais enfin ça passe crème, j'ai envie de dire.
C'est bien dit, ça passe crème. La recette Stéphane Solier est une affaire de patience.
Oui, c'est une affaire de patience, puisqu'évidemment, comme toute pâte à brioche, il faut un temps de levage, une attente, 6 heures, etc. Donc on laisse la nuit tranquillement au tiède avant de pouvoir faire cuire ces petits pains.
Mais c'est tout à fait faisable à la maison.
Mais c'est tout à fait faisable et on donnera la version avec ou sans fruits confits.
Absolument, elle est même en ligne sur franceinter.fr. À la page,
j'ai
on va
pas
déguster.
Trouvé ma bague à l'intérieur. Il n'y avait pas d'anneau, pas de bijoux.
Et voilà. Les mariages se font au mois de mars.
C'est ça, absolument. En tout cas, c'est une très belle spécialité sucrée de Rome. Alessandra Pierini, Rome, par rapport aux autres villes de l'Italie, n'est pas forcément réputée pour ses spécialités sucrées. C'est peut-être plus emblématique, le sucre, dans des villes comme Naples ou comme Palerme.
Absolument, oui. Quand on pense à Rome, on pense plus à une cuisine de terre, une cuisine plus rustique, una cucina casereccia, comme on dirait, une cuisine familiale, fatta casa, fait maison. Et c'est surtout peut-être par sa position aussi géographique. Rome est située vraiment dans le centre et donc ça nous donne l'opportunité de voyager un petit peu entre la montagne et la mer avec des spécialités passionnées.
Très bien, on va définir dans un instant justement la cuisine romaine, sa situation géographique. Laurent Thomas et Jean-Louis Deloncle sont en place derrière la vitre de la régie. Nadia a préparé l'émission et en parlant de sucre, Djoubaka, notre programmateur musical, nous fait une petite surprise sucrée qui fleure bon l'Italie. Si je vous dis Alessandra Pierini, zuccherino dolce, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire?
Alors, zuccherino dolce, ça veut dire petit sucre doux, et c'est, je pense, là, le titre d'une chanson de Raphaël Gualazzi, qui est un pianiste et chanteur jazz italien.
Absolument, une chanson qui date de 2012, on se retrouve juste après.
Pina colada, pina caipirinha, ciao ciao piccolinha, me ne vado da qui col train. Fredda c'è la neve, che grande impresa questo vieni e vai. Sto in piedi, forse resto in piedi, resto aggrappato ai vetri, non ci crederai. Se vuoi volare con me dentro nel sole, preparati a intonare il mio bemol. Sei donna ormai rodata a tutti i tram, mi piace la tua lingua e il tuo slam. Non ti do cara mia 34 anni dolce, zuccherino dolce, tu m'hai deluso e vado via da te. Yeah! E togliti il cappotto di rattan, lo vedi che già siamo a carnival. E nuoto di panema dentro il mar, con caipirinha che mi fa volare. Solo io, solo tu, solo non ti amo dolce, zuccherino dolce, tu m'hai deluso e vado via da te. Solo io, solo tu, solo non ti amo Daisy, sweetest little Daisy, grido il tuo nome e tu te ne vai. Daisy, sweetest little Daisy, grido il tuo nome e tu te ne vai. Dolce, zuccherino dolce, grido il tuo nome e tu te ne vai. Dolce, zuccherino dolce, grido il tuo nome.
Une tranche de piano montée sur ressort de Raphaël Gualazzi pour évoquer la cucina romana, c'est notre menu du jour. On commençait à en parler avec Alessandra Pierini il y a un instant. Pour comprendre cette cuisine de Rome, il faut d'abord comprendre où se situe Rome, à la fois géographiquement et climatiquement. On ne sait jamais vraiment à Rome si on est au nord, au sud, au centre, on perd un peu la boussole.
On perd la boussole, mais déjà, Rome, elle est vraiment dans le centre de la botte, dans cette région qui s'appelle le Latium, et qui est une région qui est coincée à l'est par les Apennins, donc les montagnes, qui descendent tout le long de la botte, et par l'ouest, par la mer Tyrrhénienne. Au nord, elle touche la région de la Toscane, avec qui elle a en commun donc le sud de la Maremme, c'est la vaste plaine dans laquelle on cultive énormément d'oliviers. Donc de là, elle arrivera surtout l'huile d'olive. L'Ombrie, qui est à côté aussi. Ensuite, nous avons le Molise, les Abruzzes, et on descend vers le sud jusqu'à la Campanie, qui est la région de Naples. Et là aussi, nous retrouvons une autre plaine, qui est celle des Mare Pontins, l'Agro Pontino, comme on dit en italien. Et donc, c'est une zone qui était très marécageuse dans le temps, et c'est une zone dans laquelle on a toujours l'élevage des bufflones. Oui, il y a bien des bufflones dans le Latium, et on fabrique aussi dans le Latium de la mozzarella de bufala campana, dans l'appellation d'origine protégée, et cette fabrication donc remonte de Naples et va jusqu'à dans la province de Latina, de Frosinone et jusqu'à Rome.
La mozzarella di bufala, vous évoquiez effectivement l'huile d'olive. On va parler aussi d'un fromage emblématique qui est très présent dans la cuisine romaine, pecorino romano, c'est-à-dire vraiment un fromage de brebis. Est-ce que tous ces traits identitaires de la cuisine romaine en font une cuisine du Sud?
Alors oui, on peut dire que dans les principaux traits, c'est une cuisine méridionale, mais avec quelques petites influences centraux-nord de l'Italie. On en parlera dans certaines recettes, on retrouve même du beurre. L'intérieur du Latium est très proche des montagnes, donc on a aussi une cuisine moins tournée vers la Méditerranée.
Très bien. Una cucina povera? Est-ce que on peut réduire la cuisine romaine effectivement à cette cuisine pauvre, cette cuisine finalement de paysan? Alberto Capati, professeur d'histoire et auteur de ce livre La cuisine italienne, qui est un livre de référence coécrit avec un autre historien, Massimo Montanari, aux éditions du Seuil, disait: la rusticité culinaire de Rome est liée à une double influence géographique, les bergers des Abruzzes qui venaient vendre leur salaison, leur tome de brebis, le fameux pecorino romano, et les napolitains qui émigrèrent au nord en nombre avec la pizza dans leur valise.
Ben c'est ça, il faut d'abord dire que Rome, c'est une ville dans laquelle on mange. Et tout le reste du terroir, c'est une région dans laquelle on produit. Donc, il faut bien penser que tous les agriculteurs autour, dans les régions, surtout de montagne, qui venaient de l'Ombrie, du Molise et des Abruzzes, c'était surtout des bergers qui amenaient en ville leurs produits pour en faire un peu fortune, pour essayer d'agrémenter un peu plus leur travail. Ils arrivaient dans la ville de Rome avec des brebis, donc avec la viande et surtout l'agneau. Il y a une recette dans la cuisine romaine qui s'appelle la bacchua alla romana, qui est l'agneau cuisiné surtout dans la période de Pâques. Et ensuite, les brebis pour le lait, pour en faire de la ricotta fraîche. La ricotta romana, c'est vraiment utilisé surtout dans les tourtes à base de légumes. Et ensuite, tous les pecorino, c'est-à-dire toutes les tomes de brebis, et d'ailleurs aussi le pecorino romano. Qui est romano que de nom, en fait, maintenant, et pas de fait, parce que la production du pecorino romano, le 99%, se fait en Sardaigne. Et ça, c'est historique. Hein. C'est déjà depuis la fin du 19e siècle que tous les bergers des Abruzzes ont quitté Rome. À l'intérieur de la ville, on ne pouvait plus utiliser de sel ou saler et affiner le fromage. Ils sont partis en Sardaigne, là où c'était beaucoup plus simple de fabriquer ce fromage. Et il ne reste plus maintenant qu'un seul producteur de pecorino romano du Latium.
Et le pecorino romano qu'on râpe pour agrémenter, condimenter la pasta romana, et c'est du pecorino romano qui est la plupart du temps, comme vous le dites donc, produit en Sardaigne, c'est tout à fait étonnant. Un petit mot, Stéphane Solier, qui fait peut-être de la cuisine romaine une cuisine très pauvre. L'usage aussi très nombreux des abats du 5e quartier.
Oui. Exactement. Le 5e quartier, pourquoi? Parce qu'en fait, les bêtes dans les abattoirs étaient coupées d'abord en longitudinale en deux, puis après on coupait en large encore en deux. Donc on avait la partie postérieure, la partie antérieure, donc quatre quartiers. Et le cinquième, c'était ce qui était à l'intérieur, donc les tripes, etc. À Rome, il y a ce quartier des abattoirs, le Mattatoio, à Testaccio. Et c'est là qu'au 19e siècle, on a commencé à réévaluer notamment les travailleurs des abattoirs qui étaient payés non pas en salaire, en argent, mais qui étaient payés en alimentation et ils récupéraient les abats. Et c'est ainsi que les osteries de Rome vont développer une cuisine autour de ça.
Citez-nous quelques plats à base de tripes.
Ah ben on a évidemment les rigatoni à la paillata, donc c'est la caillette de veau. On a la coratella ai carciofi, donc la frissure d'agneau aux artichauts. On
a la coda alla vaccinara.
La coda alla vaccinara, donc la queue de bœuf cuisinée en sauce. Il y en a beaucoup.
Absolument.
C'est et la tripe à la romane, bien
la
sûr.
La tripe à la romane, ah, évidemment. Fameuses tripes tomatées. Dans la codification de la cuisine romaine, il y a un personnage qui était très important, Elvira.
Une femme, elle s'appelait Ada Boni. Alors son nom ne vous dit rien, c'est normal, elle n'a jamais été traduite en français. C'est une sorte d'éminence de la cuisine italienne et romaine. Née en 1881 à Rome, autrice d'un livre somme, une vraie somme de plus de 800 recettes au départ, et au fil des ans, les éditions étaient augmentées pour monter à bien bien plus que 100, qui s'appelait Il Talismano della Felicità, oui. En 1929. Elle a également consacré un ouvrage à la cucina romana, et plus tard aux cuisines régionales, livre des cuisines régionales qui est paru de façon posthume en 1975. Elle est également rédactrice en chef de magazines culinaires, professeure de cuisine, et elle considérait que ses livres devaient servir surtout à aider les femmes à cuisiner, afin de leur laisser plus de temps pour faire autre chose que cuisiner. Donc, hein, c'est quand même féministe sans vraiment le dire.
Ouais, ouais, absolument.
Codificatrice et féministe.
Ada Boni, grand personnage de l'histoire de la gastronomie italienne.
Ah oui, grand personnage. Et puis, elle reste dans l'esprit des Italiens parce qu'en fait, son livre connaît un grand succès annuel au mois de mars. Généralement, ce livre est offert au mariage régulièrement encore aujourd'hui.
Il Talismano della Felicità, qui n'est pas traduit en français.
Qu'est-ce qu'on attend pour le traduire?
Oui, c'est ce qu'on se demande. Bah, peut-être qu'un éditeur qui nous écoute aura cette bonne idée. Si on avait la chance de faire un petit tour sur les marchés de Rome, on se rendrait compte à quel point la cuisine romaine est aussi végétale, très portée sur les herbes, sur les légumes, et notamment sur un goût qu'aiment bien les Italiens, mais en particulier à Rome. C'est l'amertume. L'amertume incarnée ici par des chicorées, les puntarelle, évidemment, cette variété de chicorées qu'on mange en salade dans les trattoriers de Rome. Mais il y a un autre légume emblématique, un peu doux amer, qui incarne vraiment la cuisine romaine.
Ce sont les artichauts. Alors, sans vouloir vexer les Ligures et les Vénitiens qui ont aussi d'excellents artichauts, Rome est aussi le royaume de l'artichaut.
De l'artichaut, et Alessandra Pierini nous a apporté une variété très particulière et particulièrement romaine.
Absolument, c'est le carciofo romanesco. C'est un très gros artichaut, et c'est vraiment l'artichaut qui n'est pas épineux, contrairement à beaucoup de variétés qu'on trouve ailleurs en Italie, surtout dans les artichauts violets. Ça n'est aussi un artichaut violet, mais on appelle aussi mammola, une très grosse tête ronde,
oui,
magnifique.
Pas du tout l'idée de ces petits artichauts violets qu'on trouve à Nice. Là, on est vraiment presque sur un gros artichaut breton.
C'est un bon diamètre de 15 cm avec une grosse tige. Et c'est vraiment l'artichaut qu'il faut utiliser pour les recettes à base d'artichauts typiquement romaines.
Alors, si je vous dis carciofi alla romana, traduction artichaut à la romaine, là, c'est vraiment une recette emblématique de Rome.
Absolument, qu'on cuisine avec juste sauté à la poêle,
c'est coupé un ragoût
en fait d'artichaut, et qu'il ne faut pas confondre avec d'autres ragoûts d'artichaut qui auraient un autre nom, typique toujours de la cuisine romaine, c'est le carciofo alla giudia.
Ah, artichaut à la juive. Et ben justement, on va se pencher sur cette recette extraordinaire. On va même comprendre dans un instant pourquoi on les appelle carciofi alla giudia, artichaut à la juive. Ce sont des artichauts débarrassés de leur partie fibreuse, légèrement aplatie et frit. C'est un vrai festin végétal. Alors pour comprendre la technique de découper la cuisson de cette spécialité, nous nous sommes rendus au restaurant Flavio alla Vevodetto. J'y arrive ou pas?
Flavio alla Vevodetto.
Vevodetto. D'accord. Et ben c'est un très bon restaurant. On est d'accord. Dans le quartier de Testaccio, vous l'évoquiez il y a un instant, on est au sud de la ville, au pied du Monte dei Cocci. Alors là, c'est incroyable. C'est une colline qui est faite avec des tessons.
Oui, les restes des amphores romaines, incroyable, en fait, qui étaient cassés, qui étaient empilés, et ça fait en fait une colline stratifiée comme ça. On le voit même à travers le restaurant où on est allé. Il y a une vitre, on voit vraiment le mur fait de restes d'amphores intercuites.
Eh bien, on va rendre visite justement à ce chef Flavio Di Maio, artichaut en main, et il nous a compté fleurette.
Dobbiamo lavorare.
On commence à effeuiller l'artichaut à la main.
Non vediamo.
On enlève les premières 3-4 rangées de feuilles. On s'attaque d'abord à la tige. Il faut, avec le petit couteau, éplucher toute la partie verte autour d'environ un demi centimètre. On obtient donc une toute petite tige avec la partie blanche qui est la partie la plus tendre. Et on va petit à petit aussi enlever toutes les parties les plus dures et coriaces qui sont encore à la base de l'artichaut. Pour faire le carciofo alla giudia, nous allons découper toute la partie plus haute de l'artichaut, qui est la partie des feuilles plus vertes et trop dures, donc juste à la moitié de la tête de l'artichaut.
Andiamo ad aprire all'interno.
On commence à écarter légèrement le cœur de l'artichaut pour enlever éventuellement la barbe qui est à l'intérieur, qui serait désagréable à la mastication.
Io vado in cucina.
Maintenant, je vais partir en cuisine.
Alors,
donc maintenant, l'huile elle est chaude. On plonge les artichauts dans l'huile qui est à 150 degrés. On les retourne dans la friteuse. Et il commence effectivement à frire et à prendre une couleur marron un peu plus croustillante et foncée.
Allora, con la punta di questo stuzzicadenti,
on récupère un cœur d'artichaut avec un écumoir et on fait un test avec un cure-dent. On commence à piquer le cœur de l'artichaut au-dessus de la tige et on voit si le cure-dent rentre facilement.
Adesso vedo se possiamo passare alla seconda fase.
Maintenant, je sors avec l'écumoir les artichauts de l'huile bouillante. Je dépose les artichauts sur la tête avec la tige vers le haut sur un papier absorbant. On laisse égoutter les artichauts le temps que la température de l'huile monte jusqu'à 175 degrés.
Lo sto aprendo perché lui in alcune parti è rimasto ancora chiuso.
Alors je prends l'artichaut encore chaud. Je le tiens avec ma main gauche, avec la main droite. Je commence à écarter petit à petit toutes les feuilles comme pour obtenir une grosse fleur ouverte.
La cucina romana ci vuole pazienza.
La cuisine romaine, il faut beaucoup beaucoup de patience.
Vedete come si apre?
J'ai pris un artichaut par la tige, je l'ai plongé directement, toujours en le tenant par la tige, dans le deuxième bain d'huile bouillante.
Sto mettendo il sale.
Je sors l'artichaut de l'huile, je le dépose sur le papier absorbant et c'est que à ce moment-là que je le sale généreusement avec du sel fin.
Et on obtient un artichaut qui ressemble un peu à un tournesol en fait.
Si, esattamente un girasole, si.
Siamo pronti? Andiamo.
Les carciofi à la giudia, incroyable. Alors, à la juive, Stéphane, il est impossible d'entrevoir le patrimoine culinaire romain sans constater sa part juive.
Et oui, c'est la présence des juifs à Rome est très 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 ancienne. C'est l'une des plus anciennes communautés juives d'Europe. Et ça date même du 2e siècle avant Jésus-Christ. L'histoire du ghetto romain, en fait, on date ça plutôt du 16e siècle. C'est une bulle papale qui a enfermé les juifs après les juifs de Venise. Et les juifs romains donc se sont installés là. Ça a impliqué beaucoup d'adaptations de leur cuisine qui était plutôt aristocratique au départ et qui va devenir une cuisine de survivance et une cuisine pauvre.
Où se situe le ghetto à Rome?
Alors, le ghetto, il est au bord du Tibre. On est sous le Capitole. On est à côté de Campo dei Fiori. Enfin, on est vraiment dans le centre-centre de Rome, à côté du théâtre de Marcellus.
Très bien. Et on y trouve encore de très nombreux trattoriers, même des pâtisseries pour déguster des spécialités juives, dont cette pizza hébraïque que vous nous avez apportée et dont Elvira s'est régalée.
Cette folie.
Comment vous pouvez décrire ça, Elvira?
C'est une texture qui est un peu entre une pâte à pain et on pense que c'est du masse-pain, mais on imagine qu'il y a la pâte d'amande tellement c'est riche, alors qu'il n'y a pas d'amande visiblement. Enfin, il y a des amandes entières, mais pas de poudre d'amande. Ça se présente sous la forme d'un petit pain allongé et puis c'est garni de d'amandes,
de
raisins, de fruits secs,
de fruits confits. Oui. C'est une spécialité de la pâtisserie Boccione dans le ghetto et leur spécialité c'est de faire presque brûler la surface. Ouais. Ça donne
beaucoup de goût, ça. Ouais. Ça donne du caractère. C'est génial.
Régal absolu, franchement.
C'est un péché, ça.
Ouais, c'est un péché. Attention, démo culinaire en live avec Alessandra Pierini. J'ai l'impression que ça va sauter sur le plateau dont on va déguster. Mais attention, la chandeleur est passée. Hein. Vous ne nous faites pas sauter des crêpes, j'espère.
Non, ça ne sera pas des crêpes aujourd'hui, mais ça sera autre chose. Un saltimbocca, donc ça veut dire saute en bouche. Ce qui est une fine tranche de veau aplatie, recouverte d'une tranche de jambon cru assez doux et une belle... sauge. Feuille de sauge.
Est-ce que c'est bon? Et vous allez nous prouver que c'est une recette extrêmement facile à faire. Expliquez-nous ce que vous faites. Vous avez une plaque de cuisson sous les yeux. Alors, una padella, qui est une poêle. Et également vos ingrédients pour faire ces saltimbocca alla romana.
Alors, déjà, on commence à allumer la poêle.
Mm-hmm.
On met un petit feu.
Jusque-là, on sait faire. Hein.
Voici. Donc, je vais prendre une escalope de veau. On compte environ deux petites escalopes de 70 grammes par personne.
D'accord.
Il faut qu'elles soient bien fines. Donc, on s'équipe d'une feuille de papier et d'un poids, éventuellement, un attendrisseur à viande.
Oula, ça va faire mal.
Là, j'en ai un. Ou sinon, on peut prendre une boîte de conserve, une boîte de conserve pleine, ou alors un rouleau à pâtisserie.
On fait comme une piccata, en fait.
C'est ça. On tapote la viande parce qu'il faut qu'elle soit bien fine et bien étalée. Nous allons recouvrir la tranche avec une tranche de jambon cru. Là, j'ai choisi du jambon de Parme parce qu'il est beaucoup plus doux. Ensuite, nous allons recouvrir alors, avec une feuille de sauge, avec un cure-dent.
Oui, vous assemblez les trois couches.
Assembler les trois. En fait, je vais piquer la feuille de sauge, le jambon cru et l'escalope de veau. Et je ressors de l'autre côté.
Oui.
Et je repique donc la viande, le jambon et la sauge.
Très
voilà,
bien.
Ça nous fait une jolie tranche comme celle-ci.
Qui fait à peu près la taille de la paume de votre main.
Ensuite, je mets un tout petit peu de beurre dans la poêle.
Oui. Donc on cuisine bien au beurre, un peu à Rome.
Stéphane Solier nous disait la présence du beurre à Rome, et c'est un fait.
Exactement, c'est une trace aristocratique et une trace du Nord aussi, de la cuisine du Nord.
Cette recette vient effectivement probablement de la région de Lombardie, de Brescia. Et donc, on met l'escalope du côté de la sauge.
D'accord, ça c'est important. C'est-à-dire que la sauge va infuser dans le beurre.
La sauge, elle doit parfumer le beurre, en fait. On la laisse juste revenir tranquillement une petite minute dans le beurre qui a fondu.
On doit être à feu vif ou à feu moyen ?
À feu moyen. À feu moyen. Il faut faire attention que le beurre ne brûle pas, surtout. Ensuite, on tourne. L'escalope.
Ça sent bon, c'est un test absolu pour savoir si on a perdu l'odorat.
Et puis en plus, le mariage, sauge, beurre.
Ah, ouais, c'est bon, ça.
On tourne donc l'escalope du côté du veau. De ce côté, on la laisse mijoter environ deux petites minutes. Et au bout de quelques secondes, je rajoute un tout petit peu de vin blanc.
Ah, vous déglacez.
Je déglace de façon... Voilà, comme ceci. C'est du vin blanc sec de la région de Rome. Là, j'ai choisi un vin qui est 100% Malvasia Puntinata, qui est donc un cépage typique de la région. Rome, nous avons beaucoup de cépages blancs. C'est le vin qu'on préfère boire dans les auberges romaines l'été.
Des Castelli Romani, et donc dans les fraschette, c'est des petits établissements de la région des Castelli Romani à l'extérieur de Rome. Et on y mange la porchetta, à tous les produits, toutes les pâtes de la tradition romaine. Et c'est toujours accompagné de vins vin locaux.
Vivement les prochaines vacances romaines. Alors elles sont prêtes, ces saltimbocca? C'est Éric Morin qui va goûter.
Le saltimbocca est prêt. Je vais juste le sortir de la poêle, le mettre de côté. Puis c'est pas fini, parce que le vin, il est en train d'évaporer encore dans la poêle. Je rajoute l'autre moitié de beurre que j'avais laissé de côté.
Il en faut un peu.
Je monte légèrement le feu.
Ah, et là, vous
j'attends
allez réduire légèrement
votre
jus.
Le jus de la viande se mélange au beurre. On sent donc le parfum de la sauge. Je crée une petite émulsion. Voilà. Et dès que le beurre est fondu, j'arrête. J'arrose le saltimbocca avec le jus.
Voilà.
De la viande, de le vin.
Dans le studio dont on va déguster.
Ah ben voilà.
Et Direzione Éric Morin. Allez.
Voici le vénard.
Il faudra sûrement un petit couteau.
Brava, Alessandra.
Eh bien.
Oh là là. En plus, il s'est servi un petit verre de vin blanc. Ça va, Éric?
Ça va très très bien.
Alors?
C'est très très agréable. La douceur du jambon, la sauge qui vient donner du peps, là, ça.
Ah ouais, avec ces notes un peu, là, on les sent, les notes camphrées de la
sauge. En bouche.
Ça rafraîchit, en fait, toute la recette.
Très bien, bravo. Et comme, évidemment, Éric Morin a la bouche pleine, c'est le moment de lui donner la parole. Que devons-nous aux Romains? Alors, non pas les habitants de la capitale italienne, mais plutôt les Romains de la Rome antique. Eh bien, on tente de répondre à cette intéressante question avec notre avocat gourmet.
Sur France Inter, va déguster.
Tous les chemins mènent à Rome n'est pas qu'une formule. Notre alimentation, notre culture du vin, nos recettes de cuisine et même notre système juridique sont des portes d'entrée à destination de l'Antiquité. Vous voulez des preuves irréfutables de cet héritage romain à nos sociétés ? En voici deux, la cuisine et le droit.
Alors, Eric, commençons avec la cuisine.
Eh bien oui, les Romains nous ont légué un héritage culinaire riche dont nous ignorons quasiment tout. Imaginons qu'il neige à Paris. Vous sortez vous promener, il fait froid, vos mains sont glacées. Afin de vous réchauffer, vous commandez un vin chaud. Sans le savoir, vous buvez une recette romaine, une recette issue de la compilation d'Apicius, le gastronome le plus célèbre de l'Antiquité. Ça marche aussi si vous vous laissez tenter par un pain perdu au petit-déjeuner ou quand vous dégustez un raisiné bourguignon, ou encore si vous vous délectez, on en a parlé tout à l'heure, du goût amer aux vertus digestives. Vous consommez encore et toujours romain. Puis la sauce. Parlons-en de la sauce. Lorsque vous agrémentez votre pièce de bœuf d'une sauce des herbes du jardin, sarriette, estragon, sauge, etc., vous faites un clin d'œil aux Romains qui avaient fait de l'assaisonnement leur marque de fabrique. Mais leur héritage culinaire n'est pas seulement composé de recettes ou de techniques. C'est aussi des valeurs morales en prise avec l'alimentation et le déroulement du repas. Être raisonnable dans sa consommation de vin et de nourriture, manger sainement, avoir un comportement responsable à table, partager un moment de convivialité. Loin, loin des clichés cinématographiques qui illustrent des banquets gargantuesques, une débauche de nourriture, le repas romain se déroule donc dans la mesure. Tenez, vous saviez que les Romains coupaient leur vin avec de l'eau ? Un sacrilège pour tout amateur de vin, mais une façon pour les Romains de ne pas tomber dans l'ivresse et de préserver leur santé. Morale de l'histoire, in vino veritas, in aqua sanitas. N'en déplaise à Astérix et Obélix, notre société s'inspire directement des règles de conduite romaines, à commencer par le manger sain. Selon l'Observatoire Société et Consommation, 82% des Français sont plus attentifs à leur alimentation qu'avant. Il est vrai que nous achetons de plus en plus de produits locaux, issus d'une agriculture biologique, de la viande, des légumes, des fruits et même du vin, naturel évidemment. Puis, les moments de partage et de convivialité autour d'un bon repas sont encore importants à nos yeux, comme à l'époque romaine. En effet, selon une étude de l'OCDE de 2018, les Français sont les recordman du temps moyen passé à table par jour, 2 heures et 11 minutes, un moment de socialisation important, que l'on soit attablé dans une auberge ou dans un 3 étoiles, même si c'est forcément plus compliqué en ce moment. Alors 3 étoiles et la transition avec l'héritage du droit romain est toute trouvée. Car c'est justement cette note maximale de 3 étoiles que donnait au droit romain un éminent professeur de droit que tous les étudiants en droit connaissent, le professeur Philippe Mallory, dans un de ses célèbres écrits. Une note remarquable qui se décompose selon lui ainsi. Une cuillère de pragmatisme, une louche de technicité et beaucoup de rigueur. On parle ici du droit romain alors qu'on dirait une notice tout droit sortie d'un guide rouge. Le parfait mélange pour créer du droit, encore, qui aujourd'hui a une influence toute particulière sur notre système juridique et nos lois. Lorsque l'avocat parle à son client de res derelicte, de l'usus, du fructus, de l'abusus, ou utilise des adages tels que nebi in idem ou nemo auditur, ce n'est pas pour faire des effets de manche, mais bien pour dire le droit, ce droit directement issu de notre héritage juridique romain. Un héritage qui envahit des palais de justice, les salles d'audience, et fait souvent irruption au milieu d'une plaidoirie de l'avocat de la défense, qui affirme d'une voix éruptive « le doute profite à l'accusé », adage qui provient tout droit du digeste de Justinien.
Bah tiens, le digeste, encore une référence à la cuisine.
Et je sais qu'il est bientôt l'heure de déjeuner, mais non, le digeste est un recueil de citations de jurisconsultes romains, publié en 533 après Jésus-Christ, et dont certains principes ont traversé les siècles jusqu'à nous. Cela démontre à nouveau que, de notre société à l'époque romaine, il n'y a qu'un pas. Un pas géant à l'échelle de l'humanité, un pas qui se compte en milliers d'années, mais un pas qui laisse une empreinte indélébile sur nos modes de vie tout entiers. Tâchons de préserver cet héritage et bonne digestion.
Alors vous qui connaissez bien l'héritage et l'antiquité romaine, Stéphane Sollier, d'accord avec les propos d'Éric Morin ?
Totalement, effectivement, simplicité. Même si, j'ajouterais, pour un Romain, il faut être simple à table, mais en même temps, il y a un élément fondamental pour la convivialité romaine, c'est la présence de la viande, civilisatrice, et donc un repas uniquement d'herbe serait connoté comme trop sauvage.
Donc ils sont moins modernes là, les Romains.
Voilà, du côté de la viande.
Très bien, du côté de la viande. Merci beaucoup pour cette précision de l'Italie dans la poêle, de l'Italie dans nos verres, de l'Italie dans nos assiettes et évidemment de l'Italie dans nos oreilles avec le nouveau titre d'Andrea Lalzo de Simone, Vivo. Bel été sur France Inter.
vivo, ma non ho scelta né un motivo. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole, non dà nessuna spiegazione. Mi conviene cogliere il tempo che rimane prima che smetta di bruciare dentro al tuo cuore anche il più piccolo ideale che sta tremando di terrore. La vita è breve, pure stretta, ma la tua mente è una gran sarta che cuce in fretta il tempo di una sigaretta. Che fa bene a chi alla luna maledetta e dalla vita non si aspetta che sia perfetta, si gode quello che gli spetta, perché si muore troppo in fretta.
La cuisine romaine au menu dont on va déguster. Et bien sûr, venons-en à un chapitre essentiel de ce répertoire romain qui est la pasta. Rome et le Latium, terre de pâtes. Alors quelques-unes des plus belles recettes de pâtes et de renommée mondiale proviennent de Rome. La matriciana, la rabiata, la cacio e pepe, référence au t-shirt Carbor, Stéphane Solier, et la fameuse carbonara. Évidemment, attardons-nous un tout petit peu sur la matriciana, une célèbre pasta tomatée qu'on prépare dans quasiment toutes les trattorias de Rome, avec en plus trois fois rien. Justement, nous sommes allés voir ensemble le chef romain Vincenzo Mancino. Il c'est vraiment un amoureux des produits paysans du Latium et il nous a préparé des pastas à la matriciana dans les cuisines de son restaurant Proloco Dol, comme Dol
di origine laziale. C'est un acronyme en fait, hein, parce qu'il utilise vraiment que des produits de la région du Latium.
Voilà, restaurant totalement locavore et situé dans le quartier du Trastevere. C'est parti pour la matriciana.
Alors la mia ricetta. Quindi noi abbiamo tagliato in maniera grossolana il guanciale.
Alors au départ, pour cette recette, je découpe des tranches de guanciale de façon à avoir des petits carrés et je les dépose sur une grosse poêle en fer en sorte que les morceaux de guanciale ne se chevauchent pas les uns sur les autres.
Comincia a cantare.
Le guanciale commence à chanter.
Diciamo cottura da un lato, riesco a...
Après avoir cuit de façon bien uniforme le guanciale sur un côté, je tourne petit à petit ma charcuterie et je dépose le gras qu'il a déjà commencé à fondre dans la poêle dans un récipient. On remet à nouveau la poêle sur le feu et on prélève les morceaux qui sont prêts. Ça, c'est une opération qu'on fera 3, 4, 5 fois jusqu'à ce qu'ils soient tous bien cuits et croustillants.
Il guanciale est prêt. Filtriamo questo grasso.
Maintenant, je filtre avec un chinois tout le gras que j'ai récolté dans un récipient.
Et fra un po' questo guanciale sarà croccante.
Je laisse bien refroidir le guanciale sur un papier absorbant, de façon il devienne bien croustillant.
Posso intanto calarmi la pasta.
Alors, pendant que le guanciale est refroidi, je commence à mettre les pâtes dans l'eau pour la cuisson. Les pâtes que je choisis pour cette sauce et celles que je préfère, ce sont les mezzemaniche. Ce sont des pâtes comme des tubes d'environ 1,5 cm avec un diamètre de 1 cm. Ça va bien prendre la sauce et parce qu'elles sont rayées sur la surface. Alors, j'ai préparé au préalable une tomate qui est réduite avec un tout petit peu d'huile d'olive sur le feu. Je la dépose dans la poêle dans laquelle j'ai mis également une cuillère de guanciale croquant.
Vado ad aggiungere. Il mio olio.
Maintenant, je rajoute à la tomate 3 bonnes cuillères de gras fondu. Tu vois, la tomate, elle reste bien consistante avec des gros morceaux. Elle a une belle tête.
Perfetto, c'est mieux que cruda, hein?
Maintenant, j'écoute les pâtes qui sont encore bien fermes. Je les dépose directement dans la poêle où j'ai déjà ma sauce tomate.
Et puis, aggiungo un peu.
Et je rajoute une louche d'eau de cuisson des pâtes. Les pâtes donc que j'avais sorties de l'eau encore très ferme, je termine de les cuire, donc 2-3 minutes, dans la poêle avec la sauce et en rajoutant à four à mesure du pecorino avec une émulsion pour créer une légère crème.
Adesso stiamo servendo un po' per volta.
Alors maintenant, je sers une bonne louche de pâte dans les assiettes. Je rajoute du pecorino râpé, 2 bons tours de poivre du moulin et le guanciale que j'avais mis de côté et qui est bien croustillant. Je le mets juste sur le dessus.
Adesso le mezze maniche alla matriciana sono pronte e andiamo a mangiare insieme.
Grazie.
Ok, bene, ottimo.
On garde un souvenir honnêtement de cette amatriciana incroyable. Une sauce tomatée, crémeuse, et ça c'est le pecorino romano qui apporte justement ce côté crémeux.
Beaucoup de goût, comme toute la cuisine romaine qui a beaucoup de caractère. Et d'ailleurs, c'est une des seules pâtes romaines qui est rouge.
C'est
en
vrai.
Fait.
La tomate étant arrivée à Rome, il y a déjà pas mal de siècles. Hein.
Déjà pas mal de siècles. Surtout, il faut dire que déjà amatriciana, le nom de la recette vient de Amatrice, qui est une ville qui est géographiquement et dans le Latium depuis 1927. Et avant, elle faisait partie des Abruzes. Et si on pense que la tomate a été cultivée aux alentours de 1750 à Naples et que les Abruzes faisaient partie du royaume des Bourbons, voilà, on comprend comment la tomate est arrivée dans les Abruzes. Ensuite, ce sont les bergers de cette région qui l'ont porté dans le cœur de Rome dans le courant du 19e siècle. Rome l'a adopté tout de suite. Elle en fait partie maintenant en symbole des recettes vraiment de la capitale.
Absolument. Et la pasta amatriciana, qui est cette pasta tomatée, a évidemment des liens de parenté avec d'autres pâtes romaines très célèbres, Stéphane Sollier.
Et oui, effectivement, les pâtes romaines ont des points communs. Peu d'ingrédients d'abord, tous issus du terroir romain, ou en tout cas des environs. Des pâtes facilement préparées, notamment par des bergers qui avaient besoin de se sustenter pendant leur itinérance. Et donc, elles ont vraiment ce point commun de la simplicité. Alors, on peut partir, si on veut faire une généalogie, en fait, on voit que elles ont toutes un même ancêtre, qui est les pâtes d'origine avec simplement du fromage. Mmh. Et puis après, petit à petit, au fur et à mesure des siècles, on a ajouté des ingrédients qui sont venus un peu plus agrémentés. Donc, on va commencer par le poivre. Alors, le poivre était une épice extrêmement chère dans l'Antiquité, mais jusqu'au XVIIIe siècle, c'est en fait le commerce avec les Hollandais et les Anglais qui va en quelque sorte démocratiser le poivre et qui va entrer enfin dans la cuisine populaire et notamment la fameuse cacio e pepe.
Donc voilà, votre t-shirt du jour. Donc littéralement, cacio et pépé, fromage et poivre.
Fromage et poivre.
Deux ingrédients avec des pâtes pour faire une pâte remarquable, mais très difficile à faire.
Encore au 18e, on ajoute un petit peu de cochon, de matière grasse, et on aura la grisha, donc juste avec du guanciale. Et puis si on veut aller agrémenter un petit peu plus, eh ben, on va mettre un peu de tomate et on arrive à la matriciana. En revanche, si on va plutôt sur le côté œuf, on va avoir la carbonara.
Absolument, la fameuse carbonara dont on ne parlera pas vraiment, on en parle souvent de la carbonara. En revanche, on vous renvoie à notre tuto vidéo. On en a fait une ensemble de carbonara à retrouver sur franceinter.fr à la page. On va déguster avec le guanciale. Vous nous rappelez juste où ça
se
situe.
Le guanciale, c'est la joue du cochon, la joue et la bajoue du cochon. C'est la salaison typique vraiment de Rome et de la région pour faire toutes les pâtes que nous connaissons bien.
Très bien.
Très goûteuses.
Un peu de légumis, ça vous dit? Je veux parler de légumes secs, de légumineuses, et c'est Elvira Masson qui nous les sert.
On va déguster. Sur France Inter.
Vous êtes très légumineuse aujourd'hui.
Aujourd'hui, oui. Vous connaissez, François Régis, ma passion pour le petit pois.
Oui.
Il y a un autre pois que j'adore, c'est le pois cassé. Pisum sativum, comme le petit pois, c'est donc une légumineuse, un pois qui a été récolté à maturité, à la différence du petit pois frais qui est récolté quand il est encore jeune, qui a été séché, débarrassé de son enveloppe et fendu en deux, d'où le nom de cassé. Alors, avant que les Italiens n'introduisent le pois frais à la cour de Louis XIV, c'était ainsi, dans sa version sèche, que le pois était consommé et c'était un produit de base. Alors, j'avais vraiment envie d'en parler aujourd'hui. J'ai trouvé un prétexte pour que mon sujet entre un peu au chausse-pied, certes, dans le thème de notre émission. Il se trouve que l'un des personnages les plus éminents et passionnants de la cuisine de la Rome antique, déjà cité par Éric Morin dans sa chronique, c'est Apicius.
Eh ben oui, le fameux.
Cuisinier officiel de l'empereur Tibère et grand codificateur de la gastronomie romaine. On lui doit notamment une fricassée de légumes secs que l'on peut préparer avec des fèves, des pois chiches ou des pois cassés ou les trois à la fois. On produit d'ailleurs, depuis la Rome antique, du pois cassé en Italie sous le nom de Piselli Spezzati.
Piselli Spezzati.
Il y a une petite coopérative appelée Sala Cereali qui produit dans la région de la Valteline, en Lombardie. Vous me voyez venir, Alessandra. Des pâtes de sarrasin, appelées pizzoccheri, que l'on trouve chez vous, chez Rapp, dans votre épicerie. Eh bien, cette coopérative produit aussi des piselli spezzati délicieux. Sur l'étiquette du paquet, il est indiqué « non necessitano di amolo », soit « pas besoin de trempage ».
Absolument.
Contrairement à ce que l'on entend parfois. Le génie du pois cassé, du fait justement que le pois est de petit calibre, qu'il est coupé en deux, et de sa plus faible teneur en amidon, qui le rend également plus digeste, contrairement à la fève ou au pois chiche, c'est qu'il n'a pas besoin de prendre son bain de 12 heures avant cuisson. On peut le cuire instantanément. Son génie, bien sûr, c'est surtout son goût, dont je suis complètement fan.
Ah ouais.
Légèrement, j'ai même du mal à le qualifier,
ah,
légèrement
sucré,
végétal, très subtil. Sa texture est parfaite pour les purées. Je garde intact un souvenir d'enfance, donc il y a très 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 longtemps, un jambon braisé servi avec une purée de pois cassé crémée, onctueuse, crémeuse. Sa texture est parfaite encore pour les soupes. Bocuse faisait une soupe de pois cassés, poireaux, céleri, carottes, ail et lard.
Absolument.
Mais on peut aussi en faire des falafels, où on remplace le pois chiche et les fèves sèches par du pois cassé. On peut encore tenter le peas pudding anglais, mais là, il faut vraiment être motivé. Ou enfin donc, cette fricassée à la Apicius. Cuire les pois cassés dans un grand volume d'eau, avec du verre de poireaux et de la coriandre. Oui, la coriandre est cuite à l'eau, bizarre. On est à Rome, on fait comme les Romains. Pendant la cuisson, on prépare une garniture, des herbes, origan, livèche, graines de fenouil, pilées, mouillées de vin blanc et de garum. Donc, comme on n'est plus dans la Rome antique, on n'a pas du garum, mais du nocmam ou éventuellement de la colatour, un produit fermenté d'anchois.
Vous évoquez un condiment fermenté à base d'anchois.
Fait de poisson fermenté. On mélange aux pois cassés et égouttés quand ils sont cuits. On arrose d'huile d'olive, on poivre. J'ai pas goûté, mais ça peut être que délicieux.
Ah,
le pois cassé est tantôt vert, tantôt plus rarement jaune. En Suède, on mangeait traditionnellement une soupe de pois cassé jaune avec du lard, accompagnée d'une crêpe un peu épaisse, etch soppa och pannkakor, le jeudi exclusivement.
J'adore.
C'était le jeudi seulement, c'est pour prendre des forces du temps où la Suède était un pays catholique et faisait donc vache maigre le vendredi. Un repas délicieux, réconfortant, mais un repas qu'on pourrait qualifier de cucina povera. Et c'est bien ça la force du pois cassé, comme de toutes les légumineuses, le goût, la vertu et la modestie.
Bravo, le pois cassé en italien, hein, piselli.
Piselli spezzato.
Spezzato, qui est assez répandu effectivement dans toute l'Italie, comme toutes les légumineuses d'ailleurs, la lentille, le pois chiche.
Dans cette partie de l'Italie, c'est vraiment la base de la cuisine.
C'est ça.
Oui.
Moi, perso, le pois cassé, c'est la soupe de ma maman avec un morceau de lard. Le goût du pois cassé, extraordinaire. Merci de nous avoir rafraîchi la mémoire.
Et de nous avoir apporté cette soupe.
On attendait le plat, là, on s'est dit, mais bon, en même temps.
Je me suis dit qu'il y avait trop de choses à manger, que c'était pas raisonnable.
Le plateau dont on va déguster est une telle cornes d'abondance grâce à Alessandra Pierini, qu'à la limite on vous pardonne bien volontiers, chère Elvira. On finit cette émission par une petite surprise. Une surprise, et le mot, vous verrez, n'est pas un hasard. Une moelleuse boulette de riz panée nommée...
Souplé.
Bravo. Alors, voilà. Parce que dans la famille des boulettes de riz, peut-être que nos auditeurs connaissent les fameux arancini siciliens, genre de boulettes de la taille d'une orange. C'est d'ailleurs de là que...
Oui, arancio.
Arancio.
Oui.
Voilà, l'orange. Même si l'arancino peut avoir une forme un peu conique, hein, c'est
de
ça?
Plus de poire, hein, oui.
Voilà. Et il existe également une autre boulette de riz à Rome, moins connue, symbole du cibo di strada romano. Hein, c'est vraiment la cuisine de rue romaine, c'est soupli, et notamment al telefono, parce qu'ils font des fils. Hein.
Des fils, oui, c'est le cœur en fait, c'est de la mozzarella qui fond à la cuisson, après la friture.
Voilà.
Et quand on le croque, c'est ça la surprise
c'est
en
ça.
Fait, qu'on
eh bien,
trouve ce fil comme le téléphone.
Alors on va l'entendre, mais bon, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, parce que soupli al telefono, aujourd'hui les téléphones, on dit aux jeunes, des fils, il n'y a plus de fils dans nos téléphones portables, effectivement.
On imagine.
Et il y a un chef romain qui est vraiment, alors, romain jusqu'au bout de la spatule et qui entretient le feu sacré des souplis, c'est Arcangelo Dandini, qui est au fourneau de Supizio, un snack juste à côté de Campo di Fiori. Hein. On est vraiment au cœur de Rome. Ce chef nous raconte l'origine de ces boulettes de riz panées et frites.
Allora, il riso nel supplì arriva attraverso le truppe di Napoleone.
Le riz, c'est pas vraiment un ingrédient à la base de la cuisine romaine, mais disons que c'est grâce aux troupes napoléoniennes dans le 18e siècle, pendant le royaume des deux Siciles, ils étaient présents donc dans le sud de l'Italie. Elles ont porté ces boules de riz vers la capitale. Et ici, cette boule de riz dans laquelle on avait caché donc quelque chose était appelée surprise par les Français.
Quindi, da surprise
et
à
de
supplie.
Surprise, le mot est devenu soupli.
Ah, guarda.
Ah.
Alors, ecco qua il
alors on a sous nos yeux juste donc trois soupplis. Donc, c'est cette boulette panée de la taille d'une petite orange un petit peu ovale. Et le soupli est frit à 175 degrés. Ensuite, avant de le manger, il faut le laisser reposer 2-3 minutes pour que la température au cœur elle arrive à 146 degrés, qui est la température exacte à laquelle la mozzarella commence à fondre. Et si on n'obtient pas au cœur cette température, la mozzarella ne fera pas les fils. Donc on ne pourra pas parler de soupli al telefono.
Je suis Laria Brunetti, je suis là pour manger un des meilleurs souplis du monde. Il est beau, croustillant, déjà juste à le prendre dans les mains, et ça donne envie. Et en les cassant, on sent les riz moelleux dessus. Oh, et ça file, ça file, ça file, ça file, ça file.
Il y a vraiment les fils du téléphone.
C'est excellent, c'est extraordinaire. J'ai la mozzarella qui file en bouche, les riz qui l'enveloppent, et puis cette panure ultra croustillante. Donc c'est un équilibre pas seulement des goûts, mais des textures aussi extraordinaire.
La dégustatrice Ilaria Brunetti, qui nous a accompagnés à Rome, mais également dans la belle aventure de notre livre « On va déguster l'Italie ». Il est l'heure de se quitter, juste en avalant une petite tranche de porchetta.
La porchetta, c'est le petit cochon de lait désossé et farci avec des fines herbes, surtout de la sauge, du romarin, typique vraiment aromatique de la cuisine romaine. Elle se mange légèrement tiède, croustillante, parce qu'elle garde toujours sa couenne autour. Elle est savoureuse, superbe. On la mange dans la rue, même avec une tranche de pain du jour chaud. Excellent.
En voilà une autre spécialité romaine. Un grand merci, Alessandra Pierini, merci beaucoup Stéphane Solier pour cet éclairage sur la cucina romana. Il a la bouche pleine. Également sur notre site, un grand carnet d'adresses de Rome pour vos prochains voyages, des vidéos de recettes italiennes concoctées avec Alessandra, mais aussi un reportage sur la carbonara, et oui, à la Trattoria da Cesare à Rome, une carbonara vraiment exceptionnelle, ainsi que le tuto vidéo de la recette. La semaine prochaine, nori, wakame, dulce, spaghetti de mer. Et si l'avenir de notre alimentation passait par les algues. On explore leur univers des rochers jusqu'à l'assiette. Et je vous retrouve également la veille, le samedi à 11h, pour notre série Saveurs Savantes avec un épisode 3 entièrement consacré au goût salé. Vivement le week-end prochain, si vous avez encore faim.